France Culture.
Question d'Islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement éditorial majeur, c'est la parution de l'ouvrage Mahomet des historiens. Et l'appellation Mahomet va être expliquée tout de suite, et qui d'ailleurs se qui sied. Et j'ai grand plaisir à recevoir les deux directeurs de cet ouvrage, qui réunit une cinquantaine de chercheurs, d'historiens, de philologues, d'islamologues. Et je salue la présence tout en remerciant l'un et l'autre de nous donner de leur temps, Mohamed Ali Amir Moïsi et John Tolan. Mohamed Ali Amir Moïsi, vous êtes professeur des universités, vous êtes membre du laboratoire d'études sur les ou le monothéisme, et c'est au pluriel en tout cas, et vous êtes aussi membre de l'Académie ambrosienne de Milan. Vous êtes président du conseil scientifique de l'Institut français d'islamologie et vous êtes directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études. Et à vos côtés, comme co-directeur de l'ouvrage Le Mahomet des historiens, il y a John Tolan. John Tolan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste reconnu des contacts culturels et religieux entre les mondes arabes et latins. Vous avez enseigné un peu partout, de par le monde, dans des universités prestigieuses, en Amérique, en Afrique, en Europe. Et vous êtes surtout le directeur du programme du Conseil européen de la recherche, un conseil européen qui fait beaucoup de choses sur le plan scientifique et au niveau de la recherche. Vous avez écrit aussi de nombreux ouvrages, notamment Mahomet l'Européen. Après cette présentation, comment est-elle née l'idée? J'imagine que c'est aussi un peu dans le sillage du Coran des historiens. Vous vous êtes dit, ou on s'est dit, le « on » pronom indéfini renvoie à ceux qui ont présidé au destiné de cet ouvrage et à l'idée qui le sous-tend. Eh bien, après le Coran des historiens, pourquoi ne pas parler de l'autre figure majeure de l'islam, qui est le prophète Mahomet, Mohammed. Mahomet a juste raison, c'est comme ça qu'il est connu dans l'histoire. Mohamed Ali Amir Moïsi.
Oui, l'idée d'un Mahomet des historiens est née après la parution du Coran des historiens chez le même éditeur aux éditions du CERF. Je dois dire que l'idée était très vieille chez moi, c'est-à-dire qu'après la parution du dictionnaire du Coran en 2007, j'avais pensé à un dictionnaire de hadith, donc la deuxième source scripturaire de l'islam, les traditions prophétiques. Mais les traditions prophétiques, c'est un véritable océan et un labyrinthe. Donc, pendant quelques années, j'ai essayé de trouver l'architecture d'un tel livre et je n'ai pas réussi. Et donc, j'ai laissé tomber le projet. Et après le Coran des historiens, je me suis dit, bon, on peut peut-être penser à un projet un peu plus ramassé, donc ne pas penser aux hadiths, aux traditions prophétiques, mais à la figure du prophète lui-même. Et donc, j'en ai parlé à Jean-François Colosimo, qui m'a donné tout de suite son accord. Et donc là, j'ai également tout à fait naturellement pensé à mon ami John Tolan. Et donc, nous avons mis sur pied d'abord, ça a pris du temps, la table des matières, hein, les chapitres, les sous-chapitres, ça c'est vraiment la base absolument indispensable de l'ouvrage. Et à partir de là, lorsqu'on a eu une table des matières assez définitive, nous avons pensé à remplir les cases avec les auteurs à travers le monde. Et là, je dois dire que ce qui est aussi, je pense, un point positif, c'était la même chose pour le Coran des historiens, parmi la cinquantaine d'auteurs, il y a des sommités mondiales, hein, de notoriété internationale, mais également de jeunes chercheurs. Et donc, ça nous tenait à cœur également de faire participer ces jeunes à ce grand projet intellectuel et scientifique.
Oui. Et bien évidemment, j'imagine, John Tolan, que vous avez adhéré tout de suite à l'idée.
Oui, tout à fait. C'est dans la continuité, effectivement, des courants des historiens, mais aussi dans la continuité de mon livre « Mahomet l'Européen », parce que l'idée, c'est, alors quand on parle de Mahomet des historiens, qui sont les historiens du titre, c'est-à-dire qu'on a souhaité non pas présenter une énième biographie du prophète, mais de voir l'histoire des représentations du prophète dans les différentes traditions. Donc, on a une première partie sur les sources musulmanes des premiers siècles, donc commencer avec le Coran, la Hadith, etc. Une deuxième partie sur la grande variété des sources musulmanes de l'an 1000 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en Indonésie, en Iran, au Pakistan, que ce soit chez les soufis, chez des juristes, chez même des djihadistes, ou que ce soit, évidemment, il y a une troisième partie ensuite qui est le point de vue extérieur. Comment Mahomet était vu par des juifs, des chrétiens, des zoroastriens et d'autres. Et donc ça, c'est un peu mon domaine, effectivement. C'était un plaisir de pouvoir associer des collègues qui travaillent sur ces questions, la place de l'islam et du prophète dans la culture européenne.
Bien. Professeur Amir Moezi, d'abord, comme ça, pour nos auditeurs, ça sera une affaire soldée, si je puis dire. On dit bien Marseille, non pas Marsilia, et on dit Jésus et pas Yassour ou Joshua. Et donc, ce qui est consacré par l'histoire comme nom propre, c'est Mahomet. Donc, les petites polémiques mesquines, parfois, et très récentes en réalité, sur le fait qu'il ne faut lui donner que l'appellation arabe avec le son arabe Mohammed, ne tient pas la route. C'est vrai que la polémique naît aussi du fait qu'il y a Mahomedan, celui qui n'a pas été loué, alors que Mohammed est celui qui est loué.
Comme vous l'avez très bien dit, à juste titre, c'est une polémique très récente. Ça date peut-être des années 80, je dirais, et issue des milieux, disons, ceux qu'on appelle les salafistes ou les intégristes, etc., pour dire que effectivement l'appellation Mahomet est une appellation outrageante, manquant de respect à l'égard du prophète.
Et voulu délibérément pour dire son inverse, son contraire.
Exactement. Alors on le dit dès l'introduction, et donc l'appellation Mahomet date du XIIe siècle, hein, entre autres dans la chanson de Roland. Et effectivement, l'auteur de la chanson de Roland ne connaissait pas l'arabe, n'est-ce pas, pour faire ses jeux de mots, et ses lecteurs ou ses auditeurs encore moins. Et donc non, c'est la forme francisée effectivement du nom du prophète arabe, comme vous l'avez encore à juste titre dit. Jésus n'est pas le nom araméen du personnage, ni Moïse le nom hébreu du prophète juif. Et donc là, nous avions pensé que effectivement c'est la forme francisée du nom, et puis très facilement et rapidement reconnaissable par les lecteurs du livre. Si on aurait dit le Mohammed des historiens, c'est peut-être moins parlant, d'autant plus qu'on voulait que le livre soit accessible. Et puis sinon, il faut dire également que, bon, bien sûr, le prénom du prophète est porté par beaucoup d'hommes et de garçons dans le monde musulman, et il y a toutes sortes de déformations, hein. On dit Mehmet chez les Turcs, Mamadou dans les pays africains, Mamal ou autre chose en Orient.
Mohan chez les Kabyles,
et donc là, bien sûr, il n'y a aucune sorte d'outrage, hein. C'est simplement la forme que prend un nom dans les différentes cultures et dans les différentes langues.
John Tolan, j'ai lu dans cet ouvrage, et notamment au niveau de l'introduction, qu'il y a cette citation d'Hugues de Saint-Victor, hein, donc un homme de la fin du XIe siècle, un homme du XIIe, qui dit que l'histoire est la mise en récit des choses notables. Et donc, ce Mahomet des historiens, Vous pensez qu'avec la cinquantaine de contributeurs, des choses notables relatives à la figure du prophète de l'islam ont été recensées?
Comme j'ai dit, c'est pas la biographie de prophète qu'on cherche à élucider, plutôt que c'est la pluralité des récits à propos de ce prophète, des récits pieux, des récits polémiques et toutes autres sortes de récits. Et dans cette, vous citez Hugues de Saint-Victor, ce que j'ai essayé de faire dans l'introduction, on parle des points de vue chrétiens ou des points de vue chrétiens sur le prophète. Effectivement, il faut à chaque fois dire si c'est le Mahomet des historiens, qui sont ces historiens et quelle est leur vision de l'histoire. Évidemment, pour un chrétien au Moyen-Âge qui voit apparaître cette figure qu'il ne peut pas reconnaître en tant que prophète, il va essayer de l'identifier soit comme un hérésiarque, comme une figure de l'Antichrist, et va essayer de gagner une place dans une histoire chrétienne.
Vous avez dit soi, mais en réalité, dans certains cas, ce sont les deux.
Oui, les deux se croisent.
Il est le prodromos, donc l'avant-coureur étymologiquement, oui. Mais le précurseur de l'Antichrist,
oui.
Mais tout en étant, disons, le dernier grand hérésiarque.
Tout à fait. On trouve ça à partir de Jean Damascène, qui connaissait bien l'islam parce qu'il était dans la cour califale à Damas, et ensuite des auteurs latins qui connaissaient beaucoup moins bien l'islam, mais qui faisaient de Mahomet une figure de tricheur, de hérésiarque, qui avait détourné les Arabes de la bonne foi.
En évoquant Jean Damascène et son traité sur les cent hérésiarques,
oui.
Il parle de celle des Ismaélites cette fois-ci.
Oui, tout à fait.
C'est la centième.
C'est la centième, oui, effectivement. Pour lui, en tout cas, elle était la dernière. Mohamed Ali Amir Moïsi, que faites-vous de cette fameuse, disons, opposition, ou paradoxe, plutôt ce paradoxe, ou ce dilemme d'Harald Motzki, quand il nous dit que, d'un côté, il n'est pas possible d'écrire une biographie du prophète, nous avons compris que c'est pas une énième, en tout cas, une histoire du prophète ou de sa vie, sans être accusé d'exploiter les services de les sources classiques islamiques d'une manière non critique. Et si on exploite ces sources d'une manière critique, il est impossible d'écrire une biographie du prophète.
Effectivement, cette citation de regretter Harald Motzki, figure dès notre introduction, pour donner un peu le ton et pour dire que, effectivement, le travail d'historien, là, dans ce livre-là, ce n'est pas écrire une énième biographie du prophète, mais l'histoire de ces figures, de ces représentations. Et donc, à travers cette pluralité de figures, nous abordons d'abord, si vous voulez, les subreceaux, je dirais, de l'histoire extrêmement tourmentée, peut-être des débuts de l'islam, mais également, je dirais, toute la richesse, après la fin des guerres civiles, après les conquêtes, après la naissance de l'Empire, la richesse extraordinaire de la culture musulmane et la figure centrale du prophète dans cette diversité, dans cette pluralité. Et on voit que, effectivement, ce qui ressort, c'est que dans les différentes cultures, mais également dans les différents domaines de l'islam, les musulmans eux-mêmes commencent à faire une sélection parmi ces différentes figures. Et je cite toujours un adage des soufis, des mystiques musulmans plutôt orientaux, hein, nous sommes en Asie centrale et surtout dans le soufisme de langue turque, mais là on a affaire quand même à des centaines de millions de personnes, hein, ce n'est pas un courant marginal, où il y a un adage qui dit que le prophète portait trois vêtements, le vêtement de la guerre, le vêtement de la loi et le vêtement de la pauvreté. Nous avons choisi le troisième vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là savent très bien, comme d'autres musulmans, qu'il y a diverses figures du prophète. Et parmi ces diverses prophètes, nous avons choisi, je dirais, la figure spirituelle qui nous sert en quelque sorte d'horizon spirituel pour le salut. C'est la pauvreté, bien sûr, dans le sens de la pauvreté spirituelle, la pauvreté mystique. Mais ils savent très bien que d'autres pourront choisir également, par exemple les djihadistes, n'est-ce pas, choisissent le vêtement de la guerre. Mais je pense que ce qui se dégage à travers cette diversité, cette très grande richesse, c'est la figure du prophète qui revient très souvent et de manière extrêmement imposante comme figure centrale de la morale, de la moralité et de la spiritualité. Et là, on voit comment, c'est-à-dire se construit à travers le temps une figure pratiquement théophanique de ce qu'on appelle la lumière de Mohammed, et qui pour la très grande...
Le tabernacle de la lumière mohammedienne.
Exactement. Et donc là, pour la très grande majorité des musulmans, c'est cette figure-là qui se dégage, mais bien sûr adaptée à la variété des cultures et des temps et des lieux.
Oui. John Tolan, nous avons vu que dans cet ouvrage considérable, une véritable somme, que l'approche est froide, académique, scientifique, loin de la géographie et même de la légende dorée qu'on peut trouver dans les différents curricula de la tradition islamique. Loin aussi des polémiques qui n'ont plus aucun sens, quoique ça continue dans le tintamarre et le vacarme tumultueux que nous pouvons connaître. Qu'est-ce qui, pour vous, avec un peu comme objectif, cette fois-ci dans une sorte d'altérité apaisée, en dehors du contexte islamique, mais vu, vous l'avez dit tout à l'heure, par les chrétiens, les juifs, les zoroastriens et d'autres. Donc ma question, c'est comment de nos jours, cette altérité islamique est-elle perçue ?
Alors de manière très, très variée, parce que les points de vue polémiques, évidemment, elles existent toujours. C'est intéressant de tracer à travers les différents chapitres sur la réception du prophète en Europe. On a, comme je disais tout à l'heure, cette idée médiévale d'un faux prophète hérésiarque. On trouve... dès le XVIIe et XVIIIe siècle, une autre image où on présente le prophète comme un grand réformateur, monothéiste, finalement un héros anticlérical en quelque sorte, pour justement critiquer la place de l'Église dans les sociétés européennes. Alors d'abord, au XVIIe siècle, en Angleterre, la place de l'Église anglicane et ses relations avec la royauté. Ensuite, en France et ailleurs en Europe, surtout au XVIIIe siècle, pour critiquer l'Église catholique. Et donc, en quelque sorte, on utilise la figure de Mahomet, non pas pour qu'on le présente de manière très positive, non pas parce qu'on a intérêt ou sympathie particulière pour l'islam, mais parce que c'est utile de prendre cette figure qui a été vilipendée par les auteurs chrétiens pendant des siècles. Il dit non, celui-là est finalement meilleur. Il est plus proche des messages de Jésus qui ne sont nos hommes d'église d'aujourd'hui. Et on trouve ensuite chez les auteurs romantiques...
Peut-être, pardon, professeur oui. Tolan, avant d'arriver aux auteurs romantiques, ce serait peut-être intéressant de dire que dans les controverses, et parfois le mot est euphémistique, entre protestants et catholiques, pour les partisans de Luther, chez les catholiques, certes Mahomet est un grand hérésiarque, mais Luther c'est pire encore. Et inversement, Mahomet n'est certes pas chrétien et c'est quelque chose de quasiment abominable, mais le pape c'est encore pire.
Oui, oui, comme disait Luther, le diable du pape est plus grand que le diable du turc. Il y a cette traduction du Coran qui a été faite par Robert de Ketten au IIe siècle à la demande de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui est publiée à Bâle en 1543 avec une préface de Martin Luther lui-même qui dit que effectivement c'est un outil de connaître l'islam pour combattre le turc entre guillemets, mais c'est aussi un outil pour trouver des arguments contre les catholiques. Et comme vous dites, en fait, même, assez ironiquement, la même année 1543 de la publication de cette traduction du Coran, il y a Guillaume Postel à Paris qui publie une comparaison entre le Coran et les écrits de ce qu'ils appellent les évangélistes, c'est-à-dire les protestants. Il trouve que les deux sont hérétiques, ils se ressemblent pas mal.
Oui, le fameux livre sur l'accord entre le Coran ou la loi de Mahomet, oui. Et les évangélistes, comme vous dites si bien, les protestants. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de cet événement éditorial majeur dirigé par les professeurs Amir Moïsi et Tolan, qui est le Mahomet des historiens. Mohamed Ali Amir Moïsi, vous dites vous-même, mais on lit, on connaît cette métaphore qu'une véritable biographie standard, je ne parle pas encore une fois de la légende dorée de la Sira, ne pourrait pas tenir sur une feuille, allez, peut-être recto verso, ou même une feuille. Ça rejoint cette idée que c'est une ombre dans un nuage d'encens. Mais avec tout cela, comment vous-même avez considéré la fameuse révolution philologique, à la fois l'histoire, la philologie comme discipline mise en avant par des phénomènes historiques et intellectuels majeurs en Europe qui vont donner, je n'ai pas oublié la réponse qui va venir du professeur Tolan sur les romantiques, mais en tout cas l'humanisme, la réforme, la renaissance, l'esprit cartésien, la pensée spinoziste, etc. Comment tout ça va s'intéresser à la figure du prophète de l'islam.
Effectivement, bon, c'est-à-dire dans le brouhaha des polémiques et des controverses de ce dont on vient de parler, hein, donc Mahomet sert de prétexte dans les bagarres entre protestants et catholiques et ailleurs. Il y a, je dirais, un courant souterrain extrêmement précieux qui est nourri par ce qu'on pourrait appeler nos ancêtres à nous, hein, c'est-à-dire nos aînés, les premiers philologues. Et ce que j'ai appelé la révolution philologique, c'est que, disons, à partir de 16e, 17e siècle, même peut-être un peu avant, il y a des érudits qui se sont intéressés, en ce qui concerne l'islam, aux textes musulmans eux-mêmes, dans leur langue, donc à la langue arabe, et puis également à d'autres cultures, hein, à la culture juive, à l'hébreu, à l'araméen, et surtout au syriaque, mais également à d'autres cultures, hein, aux langues sanscrites, chinois, etc. C'est-à-dire que, pourquoi la révolution? C'est-à-dire pour la première fois, on essaie de voir l'autre, de regarder l'autre, non pas avec ses propres lunettes polémiques et hostiles, mais essayer de découvrir ce qu'est l'autre dans son altérité. Et là, c'est une révolution. Et on a découvert qu'on a affaire à des cultures extrêmement riches, extrêmement sophistiquées. Entre autres, c'est le cas de l'islam. Et c'est de là qu'est né, donc, effectivement, l'intérêt pour le Coran en tant que texte fondateur de l'islam, mais également à la théologie, à l'exégèse coranique, à la philosophie, au droit, etc., dans les langues de l'islam, l'arabe, le persan et d'autres langues. Et c'est le prolongement de cette tradition qui arrive justement à peut-être l'étude scientifique de l'islam. Nous sommes au 19e et puis au 20e siècle. Les deux derniers chapitres de notre livre est consacré à l'historiographie, hein, c'est-à-dire les orientalistes, comme on les appelait, parfois on continue à les appeler, donc 19e, 20e siècle et 20e, 21e siècle. Et là, si vous voulez, on a découvert également que d'autres sources également peuvent nous servir pour étudier la naissance de l'islam, de son prophète, de son texte fondateur, donc surtout les langues du christianisme, le syriaque, le latin, le grec, le gèze, l'éthiopien, mais également donc les textes juifs en hébreu, les textes zoroastriens en moyen perse. Et là, on découvre plusieurs choses. C'est que d'abord, ce personnage a véritablement existé. Là, il n'y a pas de doute. Hein, c'est un personnage historique qui a vécu effectivement à cette date-là, au 6e, 7e siècle de notre ère, à cet endroit-là, et parce que les textes non musulmans et non arabes, qui sont plus anciens que les textes arabes, en parlent, parfois en donnant son nom, en commettant des erreurs, ce qui est aussi intéressant, et qui disent que voilà, il y a quelqu'un qui se dit prophète et qui est venu annoncer, et disent, la fin du temps. Et à partir de là, donc, nous avons intégré l'étude de ces textes non musulmans, non arabes, dans l'étude de la naissance de l'islam et de ces textes fondateurs. Et puis, effectivement, puisque la sira, les biographies, disons, arabes du prophète sont remplies de contradictions, de divergences, même pour les données les plus basiques de la vie du prophète. C'est pour cela qu'on dit que ce qu'un historien peut connaître de manière certaine sur la vie de Mohammed, c'est-à-dire au-delà de ces contradictions, est peu de choses, mais quand même, il y a des choses importantes. C'est-à-dire, quoi qu'on en dise, le Coran reste le seul texte arabe contemporain du personnage. Moi, je fais partie de ces historiens qui considèrent que le Coran est le message prophétique de Mohammed. Et là, nous avons quand même, c'est-à-dire nous savons que maintenant ce texte appartient à la tradition biblique, hein, puisque le Coran est rempli du début à la fin des thèmes bibliques et des personnages bibliques. Et que
le fait même que les réponses parfois se font d'une manière elliptique, ça sous-entend que les auditeurs sont au fait de considérations bibliques et la réponse se fait dans le sillage de connaissances bibliques.
Une chose extrêmement importante, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les données bibliques sont allusives dans le Coran, c'est-à-dire que les lecteurs ou les auditeurs connaissent ces histoires d'Abraham, de Moïse, de Jonas, etc., ou des données sophistiquées. Hein, Jésus est appelé le Christ sans aucune explication. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot, Al-Massih ? L'Esprit de Dieu, le Verbe de Dieu, sans aucune explication. Et donc, nous sommes dans une tradition biblique et puis dans une tradition apocalyptique, ce qui est extrêmement important aussi. Là, on sait que le prophète Mohammed est venu annoncer la fin du monde, donc et des catastrophes sur terre et au ciel, inviter les gens à la piété, à la bonté, à la prière, au repentir. Et puis, peut-être, bien sûr, aussi pour des élites, peut-être parmi ses auditeurs, à des exercices spirituels extrêmement sophistiqués, la prière du cœur, la prière constante, l'articulation entre les Écritures et le cosmos, donc illustrée par le mot « ayah » en arabe, qui veut dire aussi bien le verset coranique que les signes de Dieu dans le cosmos. Et là, ce sont des données qui appartiennent, en quelque sorte, et qui viennent, je dirais, des milieux initiatiques de ce qu'on appelle la mystique syro-orientale. Donc, tout cela nous donne des indications, peut-être, sur la spiritualité du Coran, de Mahomet, et son appartenance et son message. Et d'ailleurs, le Coran ne dit pas autre chose. Hein. Il se présente comme le prolongement du message de Moïse et de Jésus.
John Tolan, donc là, vous aurez large latitude de parler des romantiques. Peut-être que, certes, et assurément, le message mohammedien était aussi avec une veine apocalyptique. Lui-même, il disait qu'avant moi, et maintenant ce qui nous reste à vivre, tout, c'est un peu comme entre le médius et l'index, en faisant allusion, en mettant les doigts comme ça. Mais en arrivant jusqu'au romantique, ça veut dire que du temps a passé. Mais même avec ça, il était perçu comme à la fois un législateur, pour d'autres peut-être même un bâtisseur d'empire, un grand orateur aussi, mais un homme aussi étonnant que ça puisse l'être, même s'il y avait une veine ou une facture martiale dans ses démarches et dans sa vie, il était un homme magnanime, longanime. C'est ça la figure qui s'en dégageait.
Oui, c'est
chez Thomas Carlyle, par exemple.
Oui,
ou
chez Thomas Carlyle, chez Alphonse Lamartine, chez Victor Hugo, chez Goethe. C'est à la fois donc il y a ce poème d'Hugo sur le mort de prophète. C'est vraiment un mort d'un homme saint. Et donc on voit que pour ces auteurs, en quelque sorte, l'islam et Mahomet représentaient une sorte de spiritualité qui, pour eux, était un peu perdue en Occident, qui l'Occident qui était devenu trop matérialiste, trop moderne. Donc on a cette dimension. Il y a aussi d'autres dimensions, comme vous dites, le législateur. On a Emmanuel Pastouret en 1787, qui est donc un professeur de droit à Paris, qui a écrit un livre qui s'appelle « Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparé comme législateur ». Et donc, lui, donc pour qui, évidemment, pour les Européens, les deux bases du droit sont le droit romain et le droit canonique, et lui, en tant que d'études comparées du droit, voulait voir d'autres systèmes de droit. Donc on est évidemment à fin de 1787, donc à l'époque où on a le culte du grand homme. Et donc ces grands législateurs, qui sont Confucius le chinois, Zoroastre le perse et Mahomet l'arabe, sont comparés, et donc il fait la louange de tous les trois, qui sont des hommes sages qui ont su apporter une loi juste et équilibrée à leur peuple. Il dit que Mahomet est mal apprécié, vilipendé, mais c'était un grand homme, c'était un grand législateur qui a donné cette loi à son peuple.
Mohamed Ali Amir Mouaizi, diriez-vous qu'à la brièveté, ou en tout cas à l'aspect parcimonieux de la présence de Mohamed dans le corpus coranique, puisqu'il n'a été cité que 4 fois, y compris dans la sourate éponyme, la sourate 47, et puis par allusion aussi par-ci, par-là, cela a donné lieu à la prolifération des curricula sur ordre, dans certains cas, dans laquelle il y a du politique, du théologique, etc. Parce que c'est un homme qui ne se mettait pas, s'il devait en être l'auteur, comme certains le pensaient, de ce qui est considéré comme la révélation coranique, dans cet écrit-là. Parce que sinon, comment pourrait-on expliquer que certains passages coraniques étaient, ils ne sont pas nombreux, mais en tout cas certains, durs contre lui?
Il est peu reflété, en tout cas nominalement et explicitement, dans le Coran. Mais ce qui est intéressant, je pense, pour l'historien et pour l'historien des idées, l'historien des religieux, c'est que quand même, ce livre est une mine d'informations sur le contexte spirituel de l'Arabie au 6e, 7e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mine d'informations va contre ce que nous dit la tradition islamique sur l'Arabie pré-islamique. Nous avons des données apologétiques, hein, toutes les religions c'est comme ça. Avant nous il n'y a rien, après nous il y a tout, c'est-à-dire l'Arabie pré-islamique est une terre de ténèbres, de paganisme, les gens sont des barbares.
Et d'ignorance.
D'ignorance, bien sûr, l'ère de la jahiliya. Mais aussi bien les fouilles archéologiques ou les travaux épigraphiques que le Coran lui-même montre qu'il n'en est rien. C'est-à-dire comment un texte qui est rempli d'allusions, encore une fois, d'allusions bibliques, peut être compris par des adorateurs de bétiles, de cailloux, d'arbres, etc. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est ça aussi qui nous situe le Coran, comme maintenant c'est pratiquement admis par tous les historiens de cette époque et par les islamologues, comme le dernier grand livre de l'Antiquité tardive. Et donc là, ça change complètement le paysage. C'est un livre qui est, l'Antiquité tardive, qui est caractérisé par deux choses, c'est-à-dire l'imprégnation de la culture de toutes ces régions-là par la pensée grecque, passée par le filtre des, au pluriel, des christianismes. Et donc là, ça donne une autre figure, bien sûr, du Coran, mais également de celui qui porte ce message. Et donc, là aussi, on l'a vu dans le Coran des historiens, on le revoit dans le Mahomet des historiens, nous voyons que nous avons affaire à des gens, donc le prophète Mohammed, mais également son entourage, qui connaissent très bien la culture religieuse de leur époque, et ça, même de manière textuelle. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement, on a toujours parlé de la tradition orale, bien sûr, c'est quelque chose de très important, mais la tradition orale n'exclut pas la tradition écrite. Voyons le respect que le Coran manifeste à l'égard de, comment il s'appelle le Coran lui-même, le Kitab, l'écrit, n'est-ce pas? Et donc, nous avons affaire, dans le Coran des historiens, on montre que ces gens-là connaissent des textes, et parfois, il y a des passages du Coran qui sont des paraphrases, ce n'est pas traduction dans le sens moderne du terme, mais des paraphrases, des textes plus anciens. Et donc, ils se situent pleinement dans une tradition spirituelle extrêmement savante et sur le plan spirituel extrêmement riche.
L'un et l'autre, messieurs les professeurs, vous êtes contributeurs aussi, et heureusement, dans l'ouvrage. Vous, John Tolan, vous êtes consacré ou réservé en tout cas la part pour le Mahomet des Lumières, et si vous nous promettez que vous reviendriez pour en parler davantage, je vous poserai davantage de questions là-dessus. Mais en quoi ce sujet du Mahomet des Lumières est-il de nos jours important, aussi bien pour les musulmans eux-mêmes et la frange des djihadistes parmi eux, et aussi des non-musulmans?
Alors, c'est un moment important dans l'ouverture vers l'autre, dans la pensée européenne. Bon, Ali vient de parler de préhistoire de cette question, cette révolution philologique. On commence à lire les textes pour eux-mêmes et pas forcément faire la polémique. Ce qu'on voit dans cette Mahomet des Lumières, comme je l'ai appelé, c'est souvent, comme je disais tout à l'heure, un point de vue polémique, mais là on utilise la figure de prophète pour polémiquer contre le pouvoir de l'Église catholique ou l'Église anglicane en Angleterre. Donc ça devient, même pour Voltaire, qui dans un premier temps présente Mahomet comme la figure même du fanatisme, dans son Mahomet ou le fanatisme, cette pièce de théâtre qu'il écrit dans les années 1740, 15 ans après, il écrit L'essai sur les mœurs, cette grande fresque historique où il a une image très ambiguë, mais plutôt positive, de prophète comme une fanatique de bonne foi, comme il dit. Quelqu'un qui était investi de ce projet de réforme et qui se battait contre les excès d'une église où la puissance est passée dans les mains des clercs.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui nous parlons de cet ouvrage, un monument incomparable. Je ne suis pas dans l'hyperbolique, mais c'est un événement éditorial majeur qui est le Mahomet des historiens, avec les deux directeurs de l'ouvrage, Mohamed Ali Amir Moïsi et John Tolan. Professeur Amir Moïsi, votre contribution à vous concernait donc cet épisode de la chevauchée nocturne et de l'ascension céleste. Pareil, je vous fais la même demande que pour John Tolan. Si vous voulez bien venir un jour nous parler d'une manière ad hoc de cet épisode, parce que ça relève à la fois du fabuleux, de l'extraordinaire, du merveilleux, de la pensée magique aussi. Et pourtant, c'est un événement qui a pu avoir lieu, en tout cas moi, au niveau du récit. Quelle est la part de la réalité? On dit en gros que c'est aux alentours de 617-620, une année qualifiée de l'année de la tristesse ou du chagrin. Et ceci est venu presque comme une sorte de consolation pour une déréliction que l'homme a connue, pas tant le fait d'avoir perdu Khadija, son épouse, ou son oncle protecteur Abu Talib, mais le fait que la révélation s'est interrompue un certain temps. D'aucuns disent que même 3 ans, ce qui était énorme. Quel est, pour le savant que vous êtes, l'intérêt d'une focalisation sur cet épisode?
Alors, il s'agit effectivement du chapitre sur ce qu'on appelle le voyage nocturne et puis l'ascension céleste du prophète. Donc, selon le récit très rapidement dit, il s'agit d'une expérience spirituelle extrêmement intense du prophète qui commence par un voyage, je dirais, horizontal de la Mecque jusqu'à Jérusalem et puis un voyage suivi d'un voyage vertical de Jérusalem vers les cieux, et puis dans certaines versions également dans les étages de l'enfer. Alors, pour l'historien que je suis, c'est extrêmement important parce que ce récit-là a joué un rôle extrêmement important dans la spiritualité musulmane. C'est un récit qui est présent partout, dans l'art, dans la littérature, dans la spiritualité, dans la mystique, dans la philosophie, etc., et qui a donné lieu donc à des corpus de textes extrêmement riches, extrêmement variés, et également, je veux dire, il suffit de voir le nombre de ce qu'on appelle les livres de l'ascension, les Miraj nommés, les Kutub al-Miraj, qui se comptent par milliers, n'est-ce pas, depuis les premiers temps de l'islam, et jusqu'à maintenant, ça continue, et également des manuscrits illustrés, des enluminures, des miniatures, comme on l'appelle, de cet épisode-là. Et là, c'est l'importance de ce récit qui, je pense, a joué un rôle extrêmement important dans la transformation, je dirais, du prophète, d'un prophète, bien sûr, qui est une figure spirituelle extrêmement importante, mais à un homme théophanique, à un initié aux arcanes, je veux dire, aux mystères de l'homme, de Dieu et de l'univers. Et ces récits et ce voyage jouent un rôle extrêmement important. Et donc, là aussi, ce qui est important, c'est que nous sommes toujours dans la tradition biblique. Le voyage dans les cieux ou dans les différentes parties, je dirais, du cosmos, fait partie déjà de la littérature juive, des Hechalot, ce qu'on appelle les palais célestes, et puis les voyages, n'est-ce pas, spirituels de Jésus et des apôtres, etc. Donc nous sommes dans le prolongement de la littérature des voyages spirituels, qui a donné le mot, vous savez, soulouk, le voyage, qui est le cheminement spirituel. Et là aussi, quand on voit ces récits de voyages nocturnes et d'ascension céleste, sert toujours, je veux dire, de modèle et d'horizon pour les grands spirituels et les grands intellectuels de l'islam depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Donc c'est un récit extrêmement important.
Oui, on peut ajouter que ça joue un certain rôle dans la culture européenne à partir du Moyen-Âge, parce que C'était traduit, donc un de ces textes était traduit en espagnol au XIIIe siècle, depuis de l'espagnol au latin, du latin en ancien français. Et d'abord, c'était présenté souvent comme le deuxième livre de Mahomet, parce que pour les polémistes, c'était Mahomet l'auteur du Coran, et ça, c'était son deuxième livre, donc attaqué souvent par les polémistes qui ont essayé de le ridiculiser, mais qui avaient des lectures aussi moins hostiles, et notamment Dante aurait utilisé, il aurait connu ce texte, et aurait utilisé ou au moins tiré inspiration en partie pour la Divine Comédie.
On va en croire ce que dit, d'ailleurs c'est sa thèse de doctorat, Miguel Assini Palacios, disons qu'il y a des emprunts, pas tout à fait un pastiche, de l'épître au pardon, ou l'épître du pardon, du poète aveugle Aboulala Mahari, 973-974, 1057, qui, lui, reprend ces choses-là. Ce n'est pas le sujet maintenant. Et en parlant de l'Espagne, John Tolan, l'historiographie espagnole, parce que dans l'ouvrage, il y a ces regards croisés et historiographie, l'historiographie espagnole, à un moment donné, il y avait des préjugés, un désintérêt académique, mais de nos jours, il y a un regain d'intérêt sérieux pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle maintenant l'islamologie contemporaine.
Oui, tout à fait. Pendant longtemps, donc il y a toujours une école islamologique importante, ou au moins qui une école qui s'intéressait à l'histoire de l'islam, mais c'est souvent l'histoire de l'islam en Espagne. Et donc, les Espagnols, les érudits espagnols se sont moins intéressés au début de l'islam et aux prophètes, mais maintenant ça change.
Mohamed Ali Amir Mouaizi, là aussi, dans l'ouvrage, c'est ce qui nous intéresse, il y a une historiographie croisée, cette fois-ci interne ou intra-islamique, entre les approches sunnites, chiites, et puis même des sous-obédiences, parce que il n'y a aucune raison de ne pas considérer les choses dans leur pluralité et leur globalité.
Je pense, alors c'est une évidence parfois, mais parfois il est utile de rappeler les évidences, c'est-à-dire la grande diversité de l'islam. L'islam n'a jamais été un monolithique depuis le début et jusqu'à maintenant. Malheureusement, l'actualité tragique écrase tellement les choses qu'on oublie cela. Hein. Donc, on amalgame l'islam avec l'islamisme et c'est tout.
Sans qu'on les définisse d'ailleurs, ni l'autre.
Voilà, c'est très, très juste. Et donc, nous voulions refléter dans ce livre de manière extrêmement forte la grande pluralité de l'islam. Et effectivement, donc, il y a beaucoup de chapitres sur, par exemple, les chiismes. Hein, donc le schisme majoritaire, bien sûr, le schisme duodécimain imamite, mais également l'ismaïlisme. Il y a des chapitres sur les Nusayri, les alaouites, les druzes, donc et également. Donc c'était important pour nous de voir les différentes représentations du prophète dans cette grande diversité.
Je tiens simplement à dire à nos amis auditeurs que le professeur Tolan ne quitte là, à l'instant, parce qu'il a un train à prendre, ce n'est pas une légèreté de sa part. Au contraire, c'est moi qui le remercie vivement de nous avoir donné de son temps. Au revoir, John Tolan. Merci.
Au revoir, John.
Et pardon, Mohamed Ali Amir Mouaizi, de vous avoir interrompu. Je vous écoute.
Non, c'était, disons, d'une manière générale, des questions de méthode, mais également, je veux dire, c'est aussi, dès l'introduction, on le dit, John et moi, que au-delà, si vous voulez, du projet académique et scientifique, nous avons également un projet civique, dans le bon sens du terme, et ce projet civique commence avec la présentation de cette grande pluralité, de cette grande richesse, diversité de l'islam. Et donc, il est important pour nous de montrer les différentes figures du prophète à travers cette diversité. Pas seulement la division entre sunnites et chiites ou les ibadites, n'est-ce pas, troisième grand groupe de l'islam, mais également à travers les différentes cultures, hein, c'est-à-dire la culture subsaharienne, la culture indonésienne, la culture centra-asiatique, etc.
Bien sûr, il y a une approche multidisciplinaire, complète, dépassionnée de la figure du prophète. Et j'ai vu qu'il y a, entre autres approches, ces sources chiites imamites entre historiographie et historiosoufie. Il y aurait une dimension de sapientielle de l'histoire quand on l'applique à une grande figure telle que le prophète de l'islam et des musulmans.
Oui, je pense là aussi c'est une figure extrêmement importante du prophète. Par exemple, chez les philosophes, hein, donc il y a un chapitre sur la philosophie classique. Et là, le titre que vous mentionnez, c'est, je pense, le titre du chapitre de Constance Armanjon. Et effectivement, c'est-à-dire la figure du prophète en tant que sage. En tant que sage, parfois même dans la philosophie classique, en tant que continuateur des grands sages philosophes de la Grèce. Hein, donc pratiquement comme une sorte d'Aristote.
Oui, un peu quelqu'un, un continuateur de cette révolution, de cette ère, E-R-E, ou le temps axial, ou l'âge axial, et qui fait que, indépendamment de la prophétie, il y a un enseignement de type « ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse », en quelque sorte, ou... Quoique dans le cas du prophète, c'est « fais à autrui ce que tu aimes qu'on te fasse ». Et d'aucuns disent que c'est plutôt dans sa forme négative qu'elle est encore la plus parlante. Parce que parfois, si moi j'aime quelque chose, je ne vais pas l'imposer à autrui.
Non, vous avez raison, c'est le fondement de la morale. Hein, ce que vous venez de dire, la règle d'or de Hillel, le sage juif. Mais je pense que les deux formes existent dans l'islam et effectivement le prophète comme modèle et comme horizon éthique est à la base de ces doctrines-là. Et je voudrais insister sur cette question-là, c'est-à-dire que vraiment au-delà de ces diversités, ce qui se dégage de manière extrêmement massive de cette pluralité des figures du prophète, c'est sa figure morale. Pour la très grande majorité des musulmans, il reste un modèle de moralité, et en particulier, quand je dirais de moralité, on revient à ça. Fais avec les autres ce que tu veux qu'on fasse avec toi, c'est-à-dire la bonté, oui. La bienveillance.
Et tout se résume, en principe, si j'ai bien compris, dans le cadre de la tradition spirituelle islamique, à ceci, dis « je crois en Dieu et sois droit ». Donc c'est une affaire de droiture, c'est pas tant une question normative, canonique, législative ou principielle que d'être dans la droiture et plutôt dans une posture éthique.
Exactement.
Bien, alors nous avons fini. Merci infiniment.
Merci, merci à vous, Raleigh.
Merci de nous avoir donné de votre temps, d'être venu nous parler de cet ouvrage considérable, pas moins de 2100 pages. Avec 45 études proprement dites, avec une cinquantaine de contributeurs. Merci à vous. C'était, chers amis auditeurs, Questions d'Islam, une émission que vous retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site France Culture. Vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son est assurée aujourd'hui par Philippe Thibault. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.